Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Troisième partie de la rencontre avec la traversée de Florence Mial.
Toute ma vie, j'ai dessiné.
Analyse de la scène du bain. La scène du bain intervient après bien des péripéties. Les deux enfants ont été vendus comme esclaves, enfants parfaits, à deux ogres. Ils se sont échappés dans la forêt, en hiver, et la neige les a séparés.
Jonah !
On ne sait pas ce qui est arrivé au petit frère Adriel. Kiona a été sauvée par une vieille sorcière qui vit dans les bois. Elle a passé l'hiver emmitouflée dans une sorte de peau d'ours. C'est maintenant le printemps. Kiona va vers une source entourée d'arbres qui verdissent au fur et à mesure qu'elle s'approche, tandis qu'une biche tourne derrière les arbres. Elle s'arrête et contemple dans l'eau claire son reflet. Animal. Elle trouble ce reflet de sa main humaine et blanche. Elle enlève l'étrange couvre-chef animal qui la recouvre et la protège. Un visage harmonieux et de très beaux cheveux longs noirs apparaissent. Ils avaient été coupés par l'ogresse pour l'humilier. Elle enlève alors tous ses vêtements, entre dans l'eau et pousse quelques petits cris de frisson, puis plonge dans le bassin. Elle nage et son corps harmonieux apparaît en transparence dans l'eau claire. Elle sort face au spectateur qui l'avait vu entrer de dos et qui découvre une très belle jeune femme nue. Elle avait encore un corps d'enfant avant l'hiver. Alors qu'elle sort lentement de l'eau comme un papillon sort de sa chrysalide, il y a sur la berge comme un ours endormi. C'est la peau qu'elle a laissée sur la berge. Alors qu'elle dépasse cette peau, elle se blesse avec une plante épineuse et pousse un cri de douleur.
Aïe.
Elle continue quand même et va derrière les arbres uriner. En partant de ses toilettes improvisées, la caméra ne suit plus ses pas et s'arrête sur les gouttelettes de sang qui se sont imprimées sur la neige, qui reste encore. Cette scène du bain est sans parole. La jeune fille fredonne avant de toucher l'eau et on entend le chant des oiseaux et seulement quelques cris. Le frisson avant d'entrer dans l'eau et la douleur provoquée par les épines. Cette scène renvoie d'abord à l'évidence au conte de Peau d'âne. Ici, la peau de l'ours a protégé Kiona des prédateurs de tout poil, dont en particulier les ogres incestueux qui veulent les manger, elle et son frère. C'est aussi une scène de métamorphose d'une petite fille en femme. La révélation du visage, des cheveux et du corps devenu féminin se fait par l'eau, tandis que le sang qui s'écoule signifie sans doute l'arrivée des menstrues. Kiona est donc devenue une femme après un hiver, cachée dans la maison de la sorcière. Cette scène renvoie aussi aux métamorphoses d'Écho et Narcisse, dans le livre 3 des Métamorphoses d'Ovide, dont voici des extraits traduits du latin par la fabuleuse traductrice Marie Cosnet. Dans les villes d'Aoni, Tirésias avait grande réputation et répondait sans faille au peuple qui l'interrogeait. La première à éprouver sa parole de vérité, c'est la bleue Lyriopée que le Sésiphe dans son bras incurvé autrefois enfermait et que prisonnière dans ses eaux il a violée. Elle a fait sortir de son ventre la belle, la nymphe, un enfant à aimer. Elle l'appelle Narcisse. Elle consulte Tirésias. Est-ce qu'il verra le long temps d'une vieillesse mûre ? Le devin implacable, s'il ne se connaît pas. Longtemps le mot du prophète a paru vain. La fin, le fait, son genre de mort, folie nouvelle, lui donne raison. À ses 15 années, le fils de Sésiphe en a ajouté une et il semble et enfant et jeune homme. Bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles le désirent, mais il y a dans sa douce beauté un si dur orgueil qu'aucun jeune homme, aucune jeune fille ne l'émeut. Elle l'aperçoit qui presse les cerfs frissonnant dans ses filets, la nymphe de la voix, celle qui ne sait se taire quand on parle, ni parler la première, celle qui répète les sons, écho. Écho était alors corps et non voix. Pourtant sa gorge ne faisait pas un autre usage de la parole qu'aujourd'hui. Elle pouvait répéter d'une foule de mots les tout derniers. C'est Junon qui lui a fait ça. Parce que, quand elle surprenait les nymphes couchées sous Jupiter en haut de la montagne, Écho la maligne tenait de longs discours à la déesse et les nymphes fuyaient. Quand la fille de Saturne a compris, « De cette langue qui m'a trompée, il sera tout petit le pouvoir, tu feras un minuscule usage de ta voix. » Elle confirme ses menaces par le fait. À la fin d'un discours, Écho double les paroles, rapporte les mots entendus. Narcisse erre par les campagnes isolées. Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche, comme quand le bout de la torche enduit de soufre vivace attire les flammes qu'on y porte. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres et lui faire de douces prières. Sa nature refuse, elle ne peut pas commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête, guetter les sons, renvoyer les mots. L'enfant, loin de sa fidèle troupe de compagnons, dit « Qui est là ?»« Là, » répond Écho. Stupéfié, il regarde dans tous les coins, il appelle « Viens !» Un appel répond à l'appel. Il se retourne, personne ne vient. « Pourquoi, dit-il, me fuis-tu ?» Ces mots qu'il dit, il les reçoit. Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit « Ici, réunissons-nous. » Et à rien jamais, avec plus de plaisir, Écho qui répète n'a répondu « Unissons-nous. » Elle est bien d'accord, elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré. Il fuit, et fuyant, « Sors tes mains de là, je mourrai, dit-il, avant d'être à toi. » Elle ne répète plus rien, sauf « être à toi. » Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. Son amour est bien accroché, il grandit de la douleur du refus. Les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps, la maigreur fripe la peau et dans les airs le suc du corps va tout entier. Juste une voix. Juste restent les os. La voix demeure. Les os, dit-on, prennent figure de roche. Depuis, elle se cache dans les forêts, on ne la voit plus sur la montagne, tout le monde l'entend. Elle est le son, il vit en elle. Comme avec elle, Narcisse s'était amusé avec d'autres nymphes, nées des eaux ou des montagnes, et avec des jeunes hommes. Un de ceux qui l'a méprisé lève les mains vers le ciel. Qu'il soit amoureux, lui aussi, sans posséder l'aimé. La déesse de Ramnante acquiesce à cette prière juste. Il y avait une source limpide d'argent, aux eaux brillantes, que ni les bergers, ni les chèvres qui paissent en montagne, ni aucun troupeau n'avait fréquenté, qu'aucun oiseau ni bête n'avait troublé, ni aucune branche tombée d'un arbre. Il y avait du gazon autour, que l'eau tout près nourrissait, et une forêt qui ne laissait entrer aucun soleil. Ici, l'enfant fatigué de la chasse et de la chaleur s'allonge, conduit par la beauté du lieu et par la source. Il veut apaiser sa soif, une autre soif grandit, il boit et saisi par l'image de la beauté vue, aime un espoir sans corps. Il croit que c'est un corps, c'est de l'eau. Narcisse tombe alors amoureux de son image et ne peut plus s'en défaire. Il finit par mourir. Il n'a plus cette couleur, blanc, mêlée de rouge, ni cette vigueur, ni ses forces, ni tout ce qu'il admirait. plus ce corps qu'autrefois aimait Écho. Elle le voit, en colère, elle n'a pas oublié. Mais elle le plaint, et chaque fois que le pauvre enfant dit « hélas !» de sa voix qui répète, elle dit « hélas !» Quand de ses mains il frappe ses bras, elle renvoie le son du cou. Les dernières paroles de l'enfant qui regarde dans l'eau « hélas, enfant aimé en vain !» Tous ces mots, le lieu les répète, il dit « adieu, adieu !» dit Écho. Il laisse tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte. La mort ferme les yeux qui admiraient la beauté de leur maître. La suite. Après qu'il est rentré au séjour infernal, dans les eaux du Styx, il se regarde. Elle le pleure, ses sœurs, les malades, offrent à leurs frères leurs cheveux coupés. Elle le pleure, les dryades, et Écho fait résonner leurs pleurs. Déjà, on prépare le bûcher, les torches à remuer le brancard. Mais nulle part de corps. À la place du corps, on trouve une fleur safran, avec des feuilles blanches tout autour du cœur. L'affaire est sue, elle porte au devin, par les villes, une renommée méritée. Son nom d'augure est immense. Kyona est tout à la fois Podane et Écho. Celle qui doit se cacher pour survivre et qu'on n'entend pas, ou partiellement. Elle est celle qui est frappée par la tragédie de l'exil, rejetée par les hommes, mais elle est aussi celle qui a les épaules, la voix, la beauté et le talent pour sauver son frère comme le lui a demandé son père, qui lui a aussi offert le carnet de création et de consolation.
C'est papa qui m'a offert mon premier carnet.
Elle parle à travers la peinture et sa voix est entendue. Sa voix crée du sens. Elle est très belle, mais son image ne la trouble pas, et elle est aimée par deux personnages à la fois antithétiques et semblables, Erdogan, le blond narcissique, amoureux de son image, et Iskander, le brun égocentré qui ne pense qu'à lui. Ces deux personnages sont des doubles de Narcisse, mais ils vont changer pour elle et aller jusqu'à faire don de leur vie pour qu'elle puisse fuir et vivre et passer la dernière frontière en compagnie de son frère et de l'autre orphelin, l'enfant Issawa. Le conte La Traversée dénonce les violences faites aux enfants, donne à voir la multiplicité des prédateurs, l'abandon des enfants par la société qui jette les enfants de l'exil dans la gueule du loup, les enferme et les dévore. Il y a heureusement des femmes sur le chemin des enfants qui vont les sauver des prédateurs, comme la vieille sorcière qui va non seulement la sauver de la mort, mais aussi lui transmettre, après le bain, un bijou qui lui sauvera la vie et servira d'épée pour tuer le dernier prédateur qui les pourchasse. Si l'on regarde à nouveau la scène du bain et ses échos dans les contes et dans les mythes, on y voit une scène initiatique féministe où une jeune femme prend son corps et sa vie en main comme si elle se dessinait et se façonnait elle-même. Le sang qui coule de son corps n'est plus la mauvaise nouvelle, reliée à la honte et à la tâche originelle. Il est au contraire signe de vie et de force.
Ah, ta broche! C'est pour moi?
Après cela, la jeune femme ne cachera plus son corps et elle sera véritablement aimée pour elle-même puisque ses amoureux préféreront sa vie à la leur. Elle est celle qui doit vivre pour raconter la fuite et le scandale absolu d'un monde qui dévore, pourchasse ou laisse mourir ses enfants. La conteuse, narratrice, peintre Florence Mial nous interroge. Sa question est nouvelle. Elle dit la perte de sens, l'autodestruction, l'inhumanité des hommes envers leur propre espèce, et en particulier les enfants. Elle fait entendre et donne à voir aux spectateurs, enfants et adultes, la voix des disparus, des oubliés, des effacés, en tournant les pages du carnet et du récit.
Toute ma vie, j'ai espéré qu'il sonnerait un jour à ma porte, que je les croiserais par hasard sur une route, dans la rue, que je recevrais par la poste un courrier. On ne sait pas ces choses-là, n'est-ce pas? On ne sait pas.
Tous ces assassinats, toutes ces déportations n'ont aucun sens. Seule la haine les motive. Florence Mial rompt la tragédie en refusant une autre haine, celle de la vengeance. Et comme dans le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, elle espère. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc, et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur, et n'oubliez jamais que, jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots, attendre et espérer. Votre ami, Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Florence Mial, par son conte aux mille et une interprétations, espère mais n'attend pas. Elle fait entendre la voix des disparus. Elle est la fille qui crée le livre, la voix et l'image, qui réécrit les contes et ajoute d'autres signes, d'autres significations. Narcisse peut être capable de dons et d'altérité. Podane porte la peau de l'enfance. Et le passage vers la vie adulte est une renaissance. Écho fait résonner sa voix partout dans le monde. C'était la troisième partie de La rencontre avec La traversée de Florence Mial, un film d'animation, un conte initiatique féministe que vous pourrez aller voir pendant le festival Premier Plan à Angers